Autant les califes, comme on a aujourd'hui le pétrole qui est une marque d'affirmation du pouvoir, à l'époque c'était la soie, les tissus de soie qui étaient comme une signature. D'ailleurs ils étaient brodés, il y avait une calligraphie du nom du sultan, avec des bénédictions au nom du sultan. Et il y avait une incroyable thésaurisation, c'est-à-dire que les califes avaient des milliers et des milliers de vêtements et de soieries dans leur palais. Plus une étoffe était belle, et mieux le pouvoir était affirmé. Ces tirages étaient extrêmement réputés dans tout le bassin méditerranéen et ils rivalisaient entre eux. Et cela, ce système de tirages a donné lieu à un épanouissement des soieries vraiment extraordinaire. Le monde arabe était, on peut dire qu'il était bien en avance sur l'Europe concernant les techniques textiles. Et c'est vraiment du monde arabe vers l'Europe qu'est passée la transmission de cet héritage. Donc sur le plan textile, on a beaucoup de mots qui viennent du monde arabe. C'est ce que je développe dans mon livre. Peut-être une trentaine de mots du domaine textile en France qui proviennent soit de l'arabe, soit du turc, soit du persan. On a le mot moquette, par exemple. On a le mot divan, le mot gilet, jupe. On a le mot mousseline, le mot satin. Il y a une quantité, une profusion de termes qui proviennent de langues orientales. Donc tout cet héritage est passé du monde arabe vers l'Europe. On peut dire que nous sommes en Europe héritiers du monde arabe. Et c'est ce que je souligne un petit peu dans mon livre, la part de cet héritage, de cette transmission vers l'Europe.
Alors ce que vous disiez aussi, c'est que les étoffes étaient à l'époque au calife ce que le pétrole est aujourd'hui au gouvernement. Quand on sait aujourd'hui ce que représente le pétrole pour les gouvernements et qu'ils sont prêts à faire des guerres pour s'en accaparer, est-ce que c'était le cas à l'époque pour la soie?
Alors il y avait parfois des souverains qui envoyaient des émirs pour observer secrètement les techniques de tissage, donc ils restaient un petit peu comme des espions, et puis qui essayaient de connaître le moyen de s'accaparer certaines étoffes. Donc oui, ça pouvait vraiment donner lieu à des prises de cité. On pouvait, certains souverains pouvaient essayer de prendre une cité d'assaut parce qu'il y avait un tirage très réputé. Et parfois, les espions patientaient pendant plusieurs années pour pouvoir se procurer ces étoffes. Alors, par exemple, lorsqu'il s'agissait d'un pillage d'une cité, la première chose que l'on prenait, c'était les étoffes, les vestiaires. Et du coup, on a pu obtenir des inventaires de ces soieries qui étaient assez détaillés. Donc ça, c'était une chance pour nous, finalement, d'avoir ces inventaires très détaillés. Suite au sac d'une cité, au pillage d'une cité, on pouvait avoir des listes de tout ce qu'un souverain avait possédé en termes de vêtements et de soieries dans son palais. C'était des quantités incroyables. C'était vraiment une véritable thésaurisation des étoffes précieuses.
Alors, vous avez choisi de présenter ce livre en 7 fils, comme 7 fils de soie. Pourquoi ? Comment vous avez organisé ce récit dans ce livre « La soie et l'Orient » ?
Donc, le livre se veut, si vous voulez, suite à la disparition de la fabrique Mesamnar, c'est une volonté de retranscrire, de retransposer l'étoffe qui était tissée dans cette fabrique, c'est-à-dire le brocart aux 7 couleurs, retranscrire, transposer cette étoffe textile dans un texte. Donc, il y a un certain mimétisme entre l'étoffe et le texte. Comme cette étoffe était tissée de fils de 7 couleurs, j'ai pensé à structurer le livre en 7 chapitres. Donc, le premier fil de trame, je les appelle des fils de trame, naissance de la soie, raconte comment la soie est parvenue jusqu'au Proche-Orient, grâce notamment à 2 moines nestoriens qui, après avoir visité les communautés de l'Asie, ont rapporté à l'empereur Justinien des œufs de verre à soie dans leur bâton de voyage. Donc comment la soie est parvenue en Syrie et comment on élève la soie. Donc là, on rencontre la famille Saoud des montagnes de Dermama. Dans le deuxième chapitre, on voit l'histoire de la famille Mesamnar, donc cette famille syrienne qui est propriétaire de la fabrique qui justement va être détruite, et la gloire de cette famille qui, pour le mariage de la reine d'Angleterre, a été chargée de réaliser 200 mètres de brocart pour la reine Elisabeth. Et donc, cette famille est vraiment très importante à Damas s'agissant de la soie. Ensuite, le troisième chapitre, c'est passage, donc troisième fil de trame, où l'on voit toutes les opérations, le dévidage des cocons, la filature, le décreusage, la teinture, l'après de l'étoffe, Donc, on assiste à toutes les opérations, à l'ensemble des tisserands d'Amasène, grâce auxquels le tissu peut exister. Donc ici, c'est le tissu qui est une métaphore du tissu social. Ensuite, le quatrième chapitre, la soie, le pouvoir et le sacré, qui nous parle justement de ce système de tirage et des calices. Le cinquième fil de trame nous parle de la fibre et le métal. Donc ici, on va parler beaucoup de l'or depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, le fil d'or, dont sont tissés les brocarts d'Amasène. Dans le sixième chapitre, on évoquera surtout les échanges entre l'Orient et l'Occident, donc les croisades, mais aussi les échanges avec Venise et l'Orient. Et dans le septième chapitre, on verra la chaîne et la trame, les hommes de soie, la solidarité entre les différents artisans. Et puis, on rencontrera les liseurs de dessin qui finalement permettent la transposition et la préparation des cartons jacquard, puisque ces étoffes sont tissées grâce aux mécaniques jacquard. Donc, selon un système mécanique semblable à celui qu'on utilisait à Lyon au XIXe siècle.
Vous parliez tout à l'heure des croisés. Je crois que cette histoire de la soie vous a aussi amené à découvrir une expérience étonnante, hein, un peu les prémices d'un dialogue interculturel en Méditerranée.
Les califes tissaient dans leur tirage des étoffes extrêmement somptueuses, et lorsque les croisés sont venus en Orient, ils ont trouvé ces soieries tellement belles qu'ils les ont rapportées en Europe. Et en fait, ces soieries donc, qui étaient brochées de calligraphie arabe, qui étaient en fait décorées de versets du Coran et de bénédictions, ils ont choisi ces soieries pour y envelopper le corps des saints en Europe, puisqu'elles étaient très précieuses, ils les ont trouvées très belles. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'ils n'ont pas déchiffré ces versets, ces bénédictions, ils n'ont pas du tout vu que c'était là une autre religion. Ils ont pensé que c'était simplement des caractères orientaux, peut-être, qui leur évoquaient l'Orient des rois mages, un Orient très ancien, tel qu'ils se l'imaginaient, donc l'Orient des rois mages. Et ils ont enveloppé les saints dans ces étoffes. Et c'est grâce à ces soieries que nous avons pu connaître les premières soieries arabes. Elles étaient conservées dans les églises, donc ils ont très très bien conservé ces étoffes. Et on a pu découvrir les soieries arabes grâce à ces échanges entre l'Orient et l'Occident. Plus tard, on a déchiffré ces bénédictions, on s'est rendu compte que c'était des bénédictions extraites du Coran. Parfois même, comme le suaire de Cadouin, on a pensé que le suaire de Cadouin était le Saint-Suaire, donc le Saint-Suaire du Christ. Jusqu'au XIXe siècle, on a vénéré ce suaire comme étant le Saint-Suaire, jusqu'à ce qu'on déchiffre, grâce à un orientaliste, on a déchiffré les caractères et on a vu que c'était des versets du Coran. Cette anecdote nous montre que même dans l'adversité, donc des croisades, même dans l'expérience de l'altérité, de l'adversité, des liens se tissent. On apprend de gré ou de force à connaître son ennemi. Et ces échanges nous amènent à reconsidérer une histoire du même. Et c'est vraiment cela que m'a appris la soie en Méditerranée, c'est à considérer une histoire du même grâce à ces échanges de soie entre l'Orient et l'Occident.